Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Chapitre 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Verset 19. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Chapitre 3, verset 17. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. »
On poursuit dans notre série à contre-courant et j'aimerais commencer par vous poser une question. Quel genre de hamburger est-ce que vous mangez en ce moment? Là vous dites mais il n'a pas compris, il n'a pas compris que ce n'est pas le thème, ce n'est pas la nourriture. Mais si, ma question est bien pertinente. Quel genre de hamburger est-ce que vous mangez en ce moment? Un des grands spécialistes du bonheur était à Paris le 11 février dernier. Il s'appelle Tal Ben-Shahal, spécialisé dans la psychologie positive, professeur de bonheur. Il a été professeur de bonheur à Harvard. Et il utilise l'illustration, l'exemple du hamburger pour parler du travail. Alors, de quelle façon il contraste quatre types de hamburgers en disant pour les uns ou pour les autres, distinguant entre un bon hamburger en bouche et celui qui n'est pas bon en bouche, celui qui est sain et nourrissant et celui qui n'a pas d'éléments nutritifs. Eh bien, le bon hamburger, celui qui est bon en bouche et qui a des aliments sains, c'est pour lui l'illustration du bonheur au travail. On a un cadre de vie où on aime se rendre, on apprécie se rendre au travail. Et dans le même temps, dans la durée, il y a du sens, il y a une direction, quelque chose qui est nourrissant, un projet dans le travail. Alors, quel genre de hamburger est-ce que vous mangez en ce moment? Est-ce que vous aimez vous rendre au travail ou au contraire, vous y allez à reculons? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Vous voyez un projet dans votre travail où ça n'a pas vraiment de sens? Est-ce que c'est simplement pour l'argent, pour les vacances, pour les loisirs? Est-ce que vous êtes plutôt un frustré du travail ou un accro du travail? pourrait se poser toutes sortes de questions par rapport au travail. Mais on a besoin d'une grille de lecture pour pouvoir répondre à ces questions. Il ne suffit pas simplement de se les poser là, parce que quand on regarde au travers des siècles, on voit qu'à chaque époque, et même dans la vie d'une personne, on peut osciller entre une vision positive et négative du travail. On voit par exemple pendant l'Antiquité que le travail s'était réservé aux esclaves, et donc c'était mauvais en soi. Mais à d'autres moments dans l'histoire, c'est un moyen d'émancipation, un moyen de libération que de travailler. Et on l'a même entendu dans le témoignage de Blanca tout à l'heure, un désir par le travail de trouver une certaine liberté. Un symbole de cette oscillation, c'est la chanson d'Henri Salvador. Alors j'imagine qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui la connaît parce que ça remonte loin, mais au niveau du moment, on est en 1965, dans la période des 30 Glorieuses, boom économique, le travail c'est important, et il chante « Le travail c'est la santé ». Et là on se dit « Ah ben il va faire l'éloge du travail », et qu'est-ce qu'il dit ensuite ?« Ne rien faire, c'est la conserver ». Et tout le reste de la chanson, c'est dire le fait que c'est plutôt la paresse qu'il faut encourager. C'est le genre d'oscillation qu'on peut avoir. Et dans notre évaluation du travail, on a besoin de quelque chose qui va traverser les époques, quelque chose qui va traverser les cultures et qui peut nous permettre d'avoir une grille de lecture. Il ne suffira pas simplement de se dire positivement ou négativement le travail j'aime ou j'aime pas. Qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir cette grille de lecture ? Ben, je vous suggère que le texte biblique qu'on a entendu tout à l'heure a quelque chose de très pertinent à nous dire pour faire l'évaluation du travail. On va le voir en 4 points, et je vais essayer d'être bref. Vous dites, c'est déjà mal parti. Mais si, je vais essayer d'être bref. Le travail est bon, le travail est pénible. On va parler aussi du travail, l'utilité, le travail et le repos. Et vous aurez mérité votre repos à la fin. Le travail est bon. Le genre littéraire de la Genèse, là au début, il peut surprendre. D'une part par ses symboles, par ses expressions. Mais il y a beaucoup de choses pertinentes à faire ressortir de ce texte quant au travail, mais au-delà, au sens de l'existence. Et la première chose qu'on peut et qu'il nous faut comprendre pour bien comprendre le sens de notre existence, c'est cette expression qui est utilisée pour les êtres humains, « image de Dieu ». Les êtres humains sont appelés « image de Dieu ». C'est là particularité d'ailleurs des humains par rapport aux animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment comprendre image de Dieu ? Eh bien, les êtres humains sont appelés en quelque sorte à être les représentants visibles d'un Dieu invisible. L'être humain est en quelque sorte le gérant de la terre dont Dieu est à l'origine. Il est le créateur et les êtres humains sont appelés en quelque sorte à le gouverner, à le gérer. C'est le sens de dominer dans les versets 26 et 28 du chapitre 1. Et peut-être qu'en entendant cela, il y en a qui se disent « Oui, mais c'est un peu artificiel quand même. » De dire que la distinction entre les animaux et les êtres humains, c'est que les êtres humains sont image de Dieu, c'est artificiel quand même. Mais prenons une perspective athée sur la distinction. Parce qu'au final, on fait tous cette distinction entre animaux et êtres humains. Prenons une distinction dans la position d'un athée. Écoutez ce que Luc Ferry en dit, lui-même athée. « Si les hommes n'étaient pas en quelque façon des dieux, ils ne seraient pas non plus des hommes. Il faut supposer en eux quelque chose de sacré ou bien accepter de les réduire à l'animalité. » Pour éviter qu'on justifie un comportement animal, la loi du plus fort par exemple, il faut présupposer quelque chose de sacré chez l'être humain. Et la Bible, elle serait artificielle quand elle dit que l'être humain est image de Dieu et donc qu'ils sont à distinguer des animaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme implication par rapport au travail de cette expression « image de Dieu » ? La première implication, c'est qu'il y a une vision positive du travail dans ces textes de la Genèse. Dieu est symboliquement représenté comme étant au travail durant toute la création. Et pas seulement aux origines, d'ailleurs dans toute la Bible, on peut voir différentes images pour parler de Dieu. Il est décrit ailleurs comme un potier, un jardinier, un couturier, un juge, un berger, un médecin et j'en passe. On est d'accord, ce sont des anthropomorphismes, des images qui nous parlent de Dieu à l'œuvre, mais précisément, c'est parce qu'il est à l'œuvre qu'on nous le décrit de cette façon. Et l'activité de l'homme est appelée à refléter, à imiter l'œuvre de Dieu. C'est une vision positive du travail qu'on voit là. Dans le paradis originel, il ne faut pas imaginer l'être humain sur un transat, et ça, c'est sa vie. Coucher sur un transat, c'est l'oisiveté. Non, il est actif et il y a une vision positive qui est présentée. Une deuxième application qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur entre un travail et un autre. Ça peut surprendre aussi, mais prenez ces deux versets, chapitre 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Et ensuite, au verset 19, pour ce qui est des animaux, on lit « Il, donc Dieu, voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. » Dans ces deux actions, on voit les traces d'un travail qui est à la fois intellectuel et manuel. Pas de distinction entre les deux, d'échelle de valeur. Il cultive la terre, l'agriculture. Il nomme les animaux, la science. Mais pas d'échelle de valeur entre les deux. Et pourtant, si facilement, nous, on fait ces échelles de valeur. Vous voyez un médecin qui est assis à côté d'une personne qui s'occupe du ménage. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête? On voit un avocat qui est assis à côté d'un agent de sécurité. Et qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Mais vous imaginez la ville de Paris si personne ne la nettoyait? Vous imaginez les conditions de vie si on devait se balader ici à Paris sans qu'elle soit nettoyée? Saleté partout, épidémie, insécurité. Vous imaginez la vie à Paris si on n'avait pas d'agent de sécurité avec des chiens? Vous travaillez pendant toute une année, mais en une nuit! En une nuit, tout le matériel de valeur est enlevé et votre entreprise se met à chavirer. Le travail est présenté comme bon et il n'y a pas d'échelle de valeur entre l'un ou l'autre. Tous sont importants. À moins d'être dans le banditisme, il y en a peut-être ce soir parmi nous, ou dans le trafic d'êtres humains. Là, je vous demande pas de lever la main. À moins d'être dans quelque chose qui est clairement mauvais. Mais là encore, la Bible qui transcende les cultures, qui transcende les époques, va dénoncer par sa morale toute injustice. Tout ce qui est affirmé dans les Écritures vont nous permettre d'avoir une grille de lecture de ce qu'est le travail, un bon travail. Mais de manière générale, oui, le travail est bon. Alors quelqu'un pourrait dire, ok, le travail est bon, mais comment se fait-il alors qu'on parle de suicide au travail? Ces derniers jours, on a parlé d'un suicide d'une agricultrice. Pourquoi tant de frustration au travail? Pourquoi est-ce que régulièrement, c'est un sujet de conversation pour dire la pénibilité, quelque chose de dur à vivre? Eh bien, au chapitre 3, Adam et Ève veulent choisir pour eux-mêmes de décider ce qui est bien, ce qui est mal. On découvre qu'en fait, ils veulent prendre pour eux-mêmes la place de Dieu, décider pour eux-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal, alors que c'était la prérogative de Dieu. Et pour ne mentionner que les relations humaines, ça va avoir des conséquences désastreuses. Il y aura méfiance, jalousie, domination, manipulation à partir de là. Vous imaginez dans un système solaire où chaque planète se dit « je suis au centre ». Je suis le soleil, c'est la catastrophe. Et bien c'est pareil dans les relations humaines. Et quant au travail de l'homme, Dieu annonce au verset 17, « Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » Oui, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Remarquez que le mandat de cultiver la terre n'a pas disparu. Il s'agit encore de cultiver la terre. Mais la nouveauté, c'est la pénibilité. Il y a bien une pénibilité au travail. Le rapport de l'homme à la terre et donc au travail a changé. il y a un impact dans sa manière de vivre le travail. Il est comme dans une lutte avec son travail et il a perdu d'avance. Il a perdu d'avance. Adam, dont le nom renvoie à la terre, eh ben, toute sa vie, il doit travailler la terre. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit ici ? Eh ben, il retournera à la terre. Il deviendra poussière. Il y a comme une lutte toute sa vie, mais il va retourner à la terre. Ce n'est pas comme si la Bible présentait une vision idéaliste du travail. Tout est beau, tout est bien. Selon la Bible, c'est vrai, le travail est bon. Mais la rupture avec Dieu a eu des conséquences qui se voient au niveau des relations, du travail. On parle aujourd'hui de harcèlement au travail. On parle de pression, d'injustice, de burn-out. Et ce n'est pas une surprise dans la perspective de la Bible. Ce n'est pas une surprise. La Bible ne relativise pas ces injustices, et même au contraire, d'un bout à l'autre de la Bible, on trouve un Moïse, on trouve jusqu'à l'apôtre Paul, en passant par un Néhémie, des personnes qui vont dénoncer les injustices au travail. Quelqu'un pourrait être là ce soir avec une grosse souffrance au travail et se dire, mais comment est-ce que je pourrais croire en Dieu compte tenu des souffrances que je vis au travail? La Bible, elle a beaucoup de choses à dire au sujet de la souffrance. Mais ce que ces trois premiers chapitres de la Bible nous disent, ou plutôt la question qu'ils renvoient, c'est comment est-ce qu'on peut être témoin de toute cette souffrance sans se dire que quelque chose de terrible s'est produit entre le Créateur et sa créature, entre Dieu et les humains? C'est la question qu'elle nous renvoie. Comment est-ce qu'on peut être témoin de toutes ces souffrances sans se dire que quelque chose de terrible s'est produit entre Dieu et les humains? Il y a bien une pénibilité au travail qui est liée à cette rupture entre Dieu et son image. On passe ensuite au travail et l'utilité. Au fond, et peut-être vous vous posez régulièrement la question, pourquoi est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je vais au travail? Ben, si on prenait un sondage qu'on trouve dans le Francoscopie de 2013, ce n'est pas le plus récent, mais dans ce sondage, on avait différentes options qui étaient proposées. Devant un premier choix, 57% des personnes sondées répondent qu'il constitue avant tout un moyen d'avoir sa place en société. Pour d'autres, 42% considèrent d'abord comme le moyen d'être utile à la société. Une place dans la société ou utile à la société. Une autre série de choix, un deuxième choix, 37% considèrent que le travail est comme un moyen de s'épanouir personnellement, 62% comme un moyen de gagner de l'argent. Grosse part. Et quand on essaie de passer chacune de ces réponses au filtre de la parole, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce que le travail est le moyen de trouver sa place en société? Et c'est vrai que souvent, on a l'habitude de rencontrer quelqu'un, de lui demander quel travail il fait, de se faire un portrait-robot de la personne, d'avoir une représentation de la personne sur la base de son travail. Mais dans la perspective biblique, ce qui fonde l'identité, la valeur d'un être humain, ce n'est pas avant tout son travail. C'est précisément le fait d'être image de Dieu qui fonde sa valeur, qui donne une dignité équivalente à toute personne. C'est d'ailleurs c'est ça qui va être le fondement pour l'abolition de l'esclavage. C'est ça qui va être le fondement pour les luttes dans l'égalité des droits avec Martin Luther King aux États-Unis. Pour un chrétien, au-delà de cette image de Dieu, l'identité, la valeur, elle se voit dans le prix qui a été payé pour qu'un chrétien soit racheté. Et ça, c'est le prix, la vie du Fils de Dieu qui s'est donné, qui est mort pour lui, pour elle. Et c'est là que se trouve sa valeur, son identité, sa sécurité même. C'est ce qui va permettre à un chrétien de vivre différemment des moments de succès et des moments d'échec au travail. C'est ce qui va garder un chrétien, c'est ce qui devrait en tout cas garder un chrétien d'être complètement enflé d'orgueil quand il est dans une situation prospère. mais c'est ce qui va aussi garder un chrétien d'être complètement effondré quand il vit des difficultés au travail. C'est précisément de trouver sa valeur avant tout ailleurs, dans le fait qu'il est image de Dieu, dans le fait qu'il a été racheté par Jésus. On prend la deuxième question ou la deuxième réponse, est-ce que c'est le moyen d'être utile à la société? Et là, c'est vrai qu'on touche à quelque chose de vrai. Il y a une dimension communautaire qui devrait être présente dans notre travail. Pas simplement le faire pour nous. Dans la Bible, selon Jésus, on peut résumer tous les commandements, toute l'éthique, par l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Et donc, ça a tout à fait du sens de rendre un service par son travail à d'autres. Et c'est d'ailleurs, pour prendre la question 3 ou la réponse 3, si c'est simplement pour rechercher un épanouissement personnel, on manque quelque chose de plus fort dans la dimension communautaire. Si c'est simplement pour soi, pour son épanouissement qu'on travaille, on manque quelque chose dans l'utilité du travail. S'il y a une joie légitime, ça fait partie de la vocation humaine, on veut en même temps le vivre pour Dieu, pour notre prochain. L'apôtre Paul, là je sors des textes de la Genèse, mais il dira que le fait de le faire pour Dieu, ben ça va permettre de faire son travail où que le patron soit. Le patron pourrait être absent, ne pas voir, ne pas savoir, et je pourrais quand même travailler comme si je faisais consciencieusement de mon travail, parce que je le fais pour Dieu. C'est ce qui va inversement permettre à quelqu'un de tenir face à un patron qui use de manipulation, de chantage, de pression. Le fait de le faire pour Dieu et pas pour lui avant tout, ça permet de vivre ces pressions différemment. Est-ce que c'est simplement le moyen d'avoir de l'argent ? Si la rémunération, elle est logique, on ne devrait pas uniquement le faire pour l'argent. Dans Luc 12, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui est complètement obsédé par l'appât du gain, qui récolte et qui met de côté toutes ses récoltes. Mais Jésus introduit cette histoire en disant que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Elle peut lui être enlevée en un instant, cette vie. Selon Jésus, c'est manquer de bon sens. Et il invite plutôt à être riche pour Dieu. Ses disciples doivent être riches pour Dieu. Autrement dit, investir son temps, son énergie, son argent pour Dieu dans cette dimension verticale. L'utilité dans la perspective biblique, elle doit se vivre en perspective avec Dieu et vis-à-vis des autres. Et peut-être, juste pour prendre un exemple, les travaux les plus pénibles, sont souvent les plus utiles. On pourrait avoir la représentation d'un travail qui n'a pas une bonne paye ou qui est très pénible comme étant inutile, mais ramasser les ordures, s'occuper d'un élevage, travailler sur un chantier, s'occuper de personnes âgées, ça entre dans quelque chose de communautaire, un service rendu à d'autres. C'est très pénible et pourtant c'est très utile. Et malheureusement, le salaire n'est souvent pas, ne suit pas, les conditions de travail non plus ne suivent pas. Mais ce qui nous amène à la dernière partie, le travail et le repos. Si on parle de travail, il faut aussi parler de repos. Et c'est un verset qu'on n'a pas lu dans les textes. Il s'agit du chapitre 2, le verset 2, « Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création et se reposa de toute son activité le septième jour. » Comment comprendre ce verset? Est-ce que Dieu s'est fatigué au fur et à mesure qu'il avance dans la création? Non, ça ne colle pas avec le texte. Il n'y a pas de difficulté. Il lui suffit d'une parole pour que les choses se fassent, que la lumière soit, et c'est fait. Non, alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, on a un anthropomorphisme. Mais pour ceux qui étaient là, je vais citer hier soir à la conférence de la soirée du 72, Lydia Jäger qui a écrit sur la création, les implications de la création. C'est pour souligner ce jour de repos, ce repos dans lequel Dieu entre, c'est pour souligner la perfection de l'œuvre Dieu n'a pas besoin de réparer en continu la création comme un inventeur incompétent aurait besoin d'intervenir constamment sur une machine mal conçue. Le constat tout au long de la création, c'est que c'était bon, et même très bon. Ce jour de repos dit la perfection de son œuvre et le fait que l'être humain entre dans cette providence de Dieu, dans ce que Dieu a fait pour lui. Même s'il y a des conséquences dans cette rupture avec Dieu sur la terre, même s'il y a des conséquences sur cette terre, dans le monde dans lequel nous vivons, au départ, tout est décrit comme étant parfait, comme étant bon. Et chaque être humain peut entrer dans le repos de Dieu, bénéficier de sa providence. De manière concrète, à quoi ça est utile, ça ? Eh bien, au temps de Moïse, ça sera utile pour dire au peuple d'Israël qu'il est bon d'avoir un jour de repos. Qu'ils étaient esclaves en Égypte, à travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à devoir être disponibles, eh bien, un jour de repos doit dire qu'ils ne sont plus esclaves. Et vous n'êtes pas esclaves de votre travail. D'avoir un jour de repos, ça dit que vous n'êtes pas esclaves de votre travail. Ce jour sans travail, ça doit rappeler au peuple qu'il bénéficie de la providence de Dieu, de son œuvre. Mais ce thème du repos, il se retrouve à différents endroits dans la Bible, et jusque dans la bouche de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Quelle est l'importance? Et on l'a entendu un peu dans le témoignage de Blanca, le désir de trouver soit dans ses études, dans sa trajectoire professionnelle, cette satisfaction ou ce repos. Jésus, il nous invite ici à trouver ce repos en lui. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Je vais sortir un film des années 80, des années 84, mais Les chariots de feu, c'est un film qui parle justement du thème du repos. Il est basé sur certains faits réels qui se sont produits aux Jeux Olympiques de 1924, ici à Paris. L'histoire met en parallèle deux athlètes britanniques qui vont courir pour les Jeux Olympiques. Harold Abrahams, un juif anglais, et Eric Liddell, un protestant écossais. Abrahams s'est spécialisé dans la discipline du 100 mètres. Il s'est battu pour en arriver là. Mais tout au long du film, on le trouve en questionnement par rapport à sa valeur, son identité. Il passe par des phases de remise en question. Et avant la course, Abrahams, dans le film, dit cette petite phrase. « Je vais lever les yeux vers la piste et j'aurai 10 secondes de solitude pour justifier toute mon existence. » 10 secondes pour justifier toute mon existence. Autrement dit, c'est par sa manière de courir qu'il peut justifier sa vie. Il gagne la course. Il la gagne. Mais ça ne suffit pas. On le retrouve dans ses doutes, sur une terrasse de café, un verre dans le nez. Ça n'a pas réussi à justifier sa vie. Qu'est-ce qui va se passer une fois que la course est terminée? L'autre personnage, c'est Eric Liddell. Et quand il apprend qu'une de ses courses, dans la discipline du 100 mètres, doit se courir un dimanche, eh bien, il renonce. Il ne va pas courir ce jour-là. Ça sera le choc. Dans les journaux, on va en parler. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas prêt à courir le dimanche? Eh bien, ce jour-là, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où il se repose. C'est le jour où il se rend dans une église et il se rendra ici dans une église à Paris, dans le 8e arrondissement. Et au lieu de cela, il va courir dans d'autres disciplines, le 200 mètres, le 400 mètres, et le film se focalise sur le 400 mètres. On n'attend pas du tout une victoire de sa part sur une distance aussi longue. C'est 4 fois plus que sa spécialité. Et pourtant, on entend un extrait d'une lettre qu'il a rédigée à sa sœur et qui dit la chose suivante. « Je crois que Dieu m'a fait pour un but, mais il a aussi fait de moi quelqu'un de rapide. Et quand je cours, je sens son plaisir. Quand je cours, je sens son plaisir. » Vous avez d'un côté quelqu'un qui doit justifier son existence par une course, par sa discipline, mais qui, tout en la gagnant, n'a pas trouvé moyen de justifier sa vie. Et quelqu'un qui, lui, peut se reposer dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Jésus, et qui sait qu'en courant, quelle que soit l'issue, il court en sachant que Dieu prend déjà plaisir en lui. Le travail est bon, Le travail est pénible et je veux vivre, nous voulons vivre ce travail pour Dieu, pour notre prochain, mais en sachant qu'on n'a pas à se justifier par son travail, qu'on peut vivre de cette œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Amen.